Je crois que malgré son âge, il a un grand potentiel, en particulier auprès de la jeunesse. Ça peut sembler paradoxal, parce que cet homme a une parole d'une très grande qualité, percutante, très profonde, qui est simple, que tout le monde comprend et dans laquelle les jeunes se retrouvent. Et il s'est engagé, disons personnellement, à vraiment continuer l'œuvre de Jean-Paul II, l'application du Concile Vatican II, la collégialité des évêques. Je crois qu'il trouvera de nouvelles manières de faire participer davantage les évêques au gouvernement de l'Église et même les cardinaux. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait comme de nouvelles initiatives dans ce domaine-là.
Alors, c'est un héritage lourd que celui de Jean-Paul II. En même temps, il y a beaucoup de chantiers qui restent ouverts dans l'Église. Benoît XVI a pratiquement vu passer sous ses yeux tous les gros dossiers.
Bien sûr, il connaît très très bien le fonctionnement interne de l'Église, de sorte qu'il peut maintenant agir assez rapidement parce qu'il n'a pas besoin de se faire expliquer des choses de long en large. Ses convictions profondes ou ce qu'il a vu, peut-être qu'il est resté en souffrance, je crois qu'il peut agir assez rapidement et je suis confiant qu'il le fera.
Vous avez parlé de leadership, je voudrais qu'on revienne sur cette élection rapide, qui est sans doute un signe d'unité. Vous parliez unité sur les fondements.
Oui. Mais je crois que c'est un très beau signe que le pontificat de Jean-Paul II a vraiment uni l'Église. Au moins le collège des cardinaux. On pourrait dire, ah, évidemment, tous les cardinaux ont été nommés par Jean-Paul II, donc ce sont des clones, ils pensent tous de la même manière. Mais on sait très bien que le cardinal Ratzinger était une figure controversée dans les médias en particulier. Alors, le fait que nous l'ayons choisi indique que les positions morales aussi que le pape Jean-Paul II a défendues, nous les trouvons vraiment que ce sont des positions qui doivent être comme sérieusement considérées, même par les personnes qui ont des objections ou des difficultés. Alors, je crois que cela invite à reconsidérer les raisons des objections. Mais je voudrais rappeler que ce que l'Église propose, et c'est ce que le Benoît XVI va faire maintenant, il sera moins dans un rôle correctif, il va être dans une proposition de la foi. On ne comprend rien au christianisme et à ses exigences morales si on ne commence pas par la personne de Jésus-Christ. Et c'est la force de cet homme, hein, de proposer la personne de Jésus-Christ comme le fondement évangélique, hein, de toutes les positions morales de l'Église.
Le cardinal disait, je ne vais pas vendre ma foi au rabais, je ne vais pas essayer de séduire les gens en adoucissant le message. Comment faire pour que les gens reviennent dans les églises? On pensait que la priorité, c'était peut-être l'Amérique latine. Finalement, est-ce que la priorité, ce n'est pas l'Europe?
Eh bien, il y a un message extraordinaire pour l'Europe dans l'élection de ce pape. Je crois que l'Europe est à la recherche de son identité. Et le pape Jean-Paul II a critiqué la Constitution européenne parce qu'elle n'a pas au moins mentionné les racines chrétiennes de l'Europe. Alors l'Église, ici, elle vient de donner un message à l'Europe. Le meilleur homme que nous avons est un Européen. Et puis, il est au cœur du débat sur l'Europe.
Il choisit ce nom de Benoît.
Il choisit le nom de Benoît, patron de l'Europe, et qui est un patriarche de toute l'Église d'Occident, avec une très haute valeur spirituelle. C'est les racines de l'Europe. Vous allez voir, dans les prochaines semaines et années, on mesurera la portée de la décision qui a été prise maintenant pour l'Europe, hein, où il y a vraiment besoin d'une nouvelle évangélisation, de retrouver comme le feu sacré qui a construit l'Europe.